Là. On revient dans notre étude de la Torah de Manitou. Et donc, je me suis dit de manière complètement pas du tout originale que ce soir, on allait parler de la vision de Manitou par rapport à Hanouka.
C'est original.
Voilà, totalement original. Mais en même temps, vu que la semaine prochaine, il n'y aura pas cours parce que Hanouka.
C'est quand l'année Rishon?
Hanouka, vous êtes dimanche.
Dimanche, vous êtes blanc.
Aussi, mais de tout ça, même s'il n'y avait pas eu le bagoule blanc, ça aurait été Neri Jaune de Hanouka, on n'aurait pas fait cours.
Pourquoi pas justement?
Parce que les gens sont en famille, ils allument les bougies, tout ça.
On peut faire en famille des cours, c'est pas un problème.
Ça va, Hanouka.
Ambiance Hanouka. Puis Khoutzmizé, c'est le bagoule blanc. Khoutzmizé.
Donc je vous abandonne pour le bagoule blanc.
Non, j'ai dit parce que c'est la première bougie. Shalom,
Alors,
shalom.
est-ce qu'il y a un chiot pour le fond?
Ok.
Je tire le cerveau, mais il y a moins de racks tirés.
לא, מה, כל הנוצרים, צעירים, מה?
הכל עניין של הראש, של תפיסה.
מה שהיא רוצה. טוב, alors les amis, donc la Torah de Manitou, Hanouka. D'accord? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir poser comme question? Qu'est-ce que Manitou va poser comme question par rapport à Hanouka? D'abord, on va pas nous reposer les bases de qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka, on va pas se poser non plus la question de la Hanouka historique, tout ça c'est bien beau, mais c'est pas ce qui va nous intéresser ce soir. Ce qui va nous intéresser ce soir, c'est quelles sont les grandes interrogations que Manitou va soulever par rapport à la fête de Hanouka et quelle est la vision globale qu'il faut avoir de Hanouka, Bayami Mahem, Bazman, Azé. C'est-à-dire, Alpi Kamouvan, comme d'habitude, Reiya Takabala, Vereiya de la tradition de toutes les générations. Donc la première question qu'on va poser, c'est la non-représentation des Hashmonaïm, des Maccabim, dans le Talmud. Un concours? Tu peux jouer, moi aussi?
Il détient le record, mais c'est...
Attends, je peux essayer, moi. Faut que ça arrive jusque chez toi, c'est ça?
Là,
il y a un obstacle au milieu, mais pas.
Pas sur la même
Et au moins, ça arrive jusque chez elle. On n'a pas dit que ça devait arriver de où? Kitsour. Alors, la première question, c'est la non-représentation. Tout fout le camp. Tout fout le camp. Ça a commencé à cause de toi. Donc, c'est bon? Donc la première question, c'est la non-représentation des Hashmonaïm dans le Talmud. C'est quand même assez, assez évident pour être souligné. Yehuda Maccabi n'apparaît nulle part dans le Talmud à Bavli et à Yerushalmi. C'est quand même étonnant. Je veux dire, le nombre d'agadotes, le nombre d'histoires qu'on nous raconte dans le Talmud, sur toutes les fêtes, sur tous les événements, sur tous les trucs, Yehuda Maccabi n'est pas mentionné nulle part dans le Talmud. C'est-à-dire, déjà en soi, c'est un problème. Enfin, ça mérite de poser la question. Deuxièmement, deuxième problématique. Donc, au-delà de qu'est-ce qui ne va pas chez Chazal, pourquoi ils n'aiment pas les Hashmonaïm, c'est la première problématique. Deuxième problématique. Pourquoi Hanouka est resté après la destruction du temple? Hanouka fait partie d'une série de fêtes qui sont marqués dans le livre Megillat Ta'anit. Vous connaissez ce livre Megillat Ta'anit? Pas Megillah, pas Ta'anit, Megillat Ta'anit. C'est un livre qui est un recueil de toutes les fêtes qui ont été instaurées à l'époque du Second Temple, des nouvelles fêtes juives. Les rabbins, ils ont le droit de faire des fêtes. Donc il y en a plein qui ont été instaurées. Il y a une trentaine de jours de fêtes en plus. D'accord? Parmi ces fêtes-là, Hanouka. Pourim. Toutes les fêtes ont été annulées après la destruction du temple, ce qui est marqué dans la Gemara dans Maseret Rosh Hashanah, Boutla, Batla, Megillat Ta'anit, Chutz mi Hanouka ve Pourim. Pourim, on en parlera à son époque, mais Hanouka, on pose la question ce soir, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été annulée? D'accord? Donc c'est la deuxième question.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir, j'en prie. Donc ça, c'est la deuxième question. La troisième question qu'on va se poser est de savoir, alors que nous vivons dans un monde grecisé depuis 2000 ans, et qu'on s'est très bien accoutumé à ce monde grec, qu'est-ce qu'on a comme message à donner à Hanouka aujourd'hui? Ça, parce qu'on a dit, ou Basmanazé, Manitou fait un constat qui est clair, le monde grec a gagné. Pas chez nous, mais dans le monde, bah, la culture occidentale, c'est la culture grecque. Et nous, le peuple juif, on a puisé énormément de choses là-bas. Donc, qu'est-ce que nous, on met en avant et qu'est-ce qu'on fête à Hanouka? Ok, les questions sont claires? Yal. Alors, on va essayer de donner maintenant les réponses et voir s'il n'y a pas un lien justement entre ces trois questions pour essayer de comprendre la fête de Hanouka. Donc, Yehuda Maccabi n'est pas mentionné nulle part dans le Talmud. Bichlal, Sefer HaMakabim a été clairement mis de côté par les Chachamim. C'est la lame. Alors, je réponds tout de suite à la question que ce n'est pas un livre de Torah. Mais ça, ça n'a jamais été un problème. Les apocryphes. Ça a l'air ? Maintenant, Sesfarim Chitsonim, ce que vous en connaissez à part... Qu'est-ce qui se passe ? Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Que fais-tu ? On vient de parler de Sefer HaMakabim. Chutz mi Sefer HaMakabim, vous en connaissez ? Des Sfarim Chitsonim ? Ok. Je vais vous aider. Il y a par exemple le livre Ben Sira. Il y a par exemple le livre Yehudit, qui raconte l'histoire de Yehudit. Il y a Hanoch, Enoch, plein de bouquins qui sont des... Certains d'entre eux sont des livres d'histoire, comme le Sefer Hashmonaïm, certains d'entre eux sont... ou comme Sefer Yehudit. Certains d'entre eux sont des livres ésotériques, comme Sefer Hanoch, Sefer Enoch. C'est vrai, il y a plein de bouquins.
Tu peux définir ésotérique.
Ésotériques qui vont s'occuper de la transcendance, de notre rapport avec la transcendance. Mais à aucun moment, ces livres sont des livres de Ruach HaKodesh. Il y a des livres de Chochma, comme Sefer Ben Sira, c'est un livre de sagesse et de moussard. Il ressemble beaucoup à Michelet. Mais Michelet, c'est Ruach HaKodesh, c'est Nevoa. Ben Sira, c'est Chochma. D'accord ? C'est pour ça que nous dira Rabbi Akiva dans le Talmud, « Kol ha-kore basfarim ha-chitsonim, en lo chelek l'olam haba. » Tout celui qui lit dans les livres Chitsonim, il n'a pas part au monde futur. Moi, je veux bien, mais Rabbi Akiva, il y a un problème, puisque les Sfarim Chitsonim, le Talmud les cite. Donc, c'est-à-dire qu'ils les ont lus. Alors quoi, tous les Amoraïm, ils n'ont pas part au monde futur. Et Lama, il y a une différence entre l'Ikro Otam et l'Ikro Baem. L'Ikro Otam, c'est les livres, pour apprendre ce qu'ils disent. L'Ikro Baem, c'est leur donner un statut de Torah, comme on est Koré Batorah. D'accord ? Et donc ça, on n'a pas le droit. Donc, Sefer HaMakabim n'est pas censé être dans le Bet HaMidrash ni dans le Tanakh. Mais pourquoi les Chachamim l'ont tellement mis de côté ? Qu'est-ce qu'ils ont comme problème avec les Chachmonaïm ? Eh bien, les amis, les Chachmonaïm sont des Kohanim. Or, d'après le judaïsme, il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Si je ne m'abuse. Quels sont les quatre piliers des pouvoirs d'après le judaïsme ?
Religieux.
Ah, alors.
Tu veux en hébreu ?
Ouais, parce qu'en hébreu, ça fait un mot. Ça fait le mot Mishkan. Moyen mnémotechnique pour se rappeler. Mishkan, Melech, Shofet, Kohen, Venavi. C'est-à-dire le pouvoir, on va dire, politique, Malchut. Malchut, ce n'est pas forcément un roi avec une couronne sur la tête, c'est l'État. Shofet, le pouvoir législatif et judiciaire. Kohen, c'est, on va dire, l'entité sacerdotale. Et Navi, ça c'est autre chose, c'est un joker. Ok ? Donc ce sont les trois, qui sont quatre pouvoirs dans le judaïsme. Il faut qu'il y ait séparation des pouvoirs. Là, notre problème, c'est que les Chachmonaïm sont des Kohanim et qui vont prendre le pouvoir politique. Et la question est la suivante. Est-ce que c'est bien ? Ouais, non, pas est-ce que c'est bien. Est-ce qu'on a le droit, Bichlal, d'être Kohen et d'être roi en même temps ? D'après le judaïsme.
Lo yasur shevet mi Yehuda,
en fait. Zichora, toi tu dis, lo yasur shevet mi Yehuda. Donc toi, ton problème, c'est pas qu'il soit Kohanim, c'est que Bichlal ne soit pas de Yehuda. Ouais. C'est-à-dire que tu dis, il y aurait un interdit qu'on n'a pas le droit de mettre un roi qui n'est pas de la tribu d'Yehuda.
Shaoul.
Donc tu viens, tu fais un coucher à Shaoul. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah, bah, rien. Shaoul, il vient de Binyamin. Tov, on peut dire que c'est Horacha, que c'est Shmuel Hanavi qui l'a mis en place. On peut trouver ça comme notre joker.
Gamarsa.
Hein ?
Gamarsa, Horacha.
Que quoi ? Ah, tu dis, à l'époque de Hashmonaïm, on peut dire c'est Horacha, Gamken. Sauf que Horacha, c'est qui peut le faire ?
Navi.
Navi. À l'époque de Hashmonaïm, il n'y a plus de Navi. Non, non, le concept de Horacha, c'est une prérogative qui est donnée au prophète, pas au rabbin. Non, ah non, non, ça c'est autre chose. Attends deux secondes. Non, là c'est pas la question. Toi tu dis, attends, personne d'autre a fait la guerre, qu'il fasse la guerre. Non, il n'y a pas de problème. La question n'est pas de savoir est-ce que c'est bien qu'ils aient pris les armes ou pas. Une fois qu'ils ont gagné la guerre, pourquoi ils n'ont pas passé un coup de fil au Resh Galuta? En disant, allez, c'est bon, deviens le roi. La question n'est pas pourquoi ils ont fait la guerre, ça n'en a pas de problème. Mais pourquoi ils n'ont pas donné le pouvoir après ? C'est ça le problème. Ok ? Et donc là, si tu me dis Horacha, vas-y, ça ne marche pas.
Il n'y a pas un ignat de Issour, le chalet,
Bah quoi ?
Non, la malchoute et la keona.
Bah, c'est ça la question que je pose.
C'est que le Kohen, il est sur la vache la malchoute de Dieu. Donc,
donc c'est toute ma question. Est-ce qu'on a le droit d'être l'un et l'autre ? C'est ça ? Donc toi tu dis, il y a un verset qui dit l'autre sur Shevet Miyehuda, le sur Shevet Miyehuda, on a parlé de d'amener un roi qui n'est pas de Yehuda. En fait, c'est une marloquette entre le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. Pour le Talmud de Babylone, c'est un problème que les Kohanim soient Melachim. Pour le Talmud pour le Talmud Yerushalmi, Maseret Orayot, on voit qu'il y a un problème. Il nous dit le Talmud Yerushalmi, En Moshrim Melachim Kohanim. Le Maseret Orayot. En Moshrim Melachim Kohanim. Donc ça, c'est clair, ça ne marche pas. Par contre, pour le Talmud Bavli, on nous raconte une histoire que lorsque Yanaï a Melech, donc Yanaï, c'est l'arrière-petit-fils de Matityahu à Kohen. On est trois générations après le Meret de Hanouka, donc il est roi Hashmonaï, et les Chachamim ont un grand problème avec lui, mais pas parce qu'il est roi. Parce que d'après eux, il n'est pas saoul d'être Kohen Gadol. Parce qu'il y a eu un problème avec sa mère qui était Shvouya, et donc d'après eux, c'est pas saoul le Kehuna. Enfin, ils n'ont aucun problème avec le fait qu'il a Keter Malchut. Donc tu vois que d'après le Bavli, il n'y a pas de problème. D'après Yerushalmi, il y a un problème. D'après le Ramban, il y a un problème. Il possède comme Yerushalmi. D'après le Rambam, il n'y a pas de problème. Il possède comme le Bavli. On voit d'après le Hilchot Hanouka du Rambam, chapitre 1, halakha 1, que lui... Il te dit pourquoi on fête Hanouka ? Parce que Chazar a malchut les Israël yeter al mataim shana. Parce que la royauté d'Israël est revenue pendant plus de 200 ans. Donc ça veut dire qu'il met en compte, il met dedans tous les rabbins, tous les rois Hashmonaïm et ça lui pose aucun problème.
Donc selon le Ramban, on devait quand même faire le Hallel à Hanouka. Et pour quelle raison ?
Le Ramban.
Ramban.
Ah non, mais ça n'a rien à voir. Le fait qu'ils aient ramené l'indépendance, c'est une chose. Ils auraient dû après rendre le pouvoir à la malchut de Yehuda. C'est la colle. Il faut dissocier le fait qu'on a réussi à se défaire des Grecs, ça c'est une chose. Et après, notre soupe interne, c'est notre soupe interne. Ok ? Donc, on aurait un problème à ce que les Kohanim deviennent des rois. Mais Lamazébaïa. Lamazébaïa. Parce que le roi et le Kohen ne sont pas préposé à la même chose. Et que, semble-t-il, tu ne peux pas faire les deux en même temps. Le roi, bon alors évidemment, dans sa qualité de roi, il est préposé à la gestion de l'État. Mais au-delà de ça, il a aussi un rôle de transmission de la Torah. Mais quelle Torah ? Quelle est la Torah du roi ? La Torah du roi, c'est la Torah écrite. Nous dit, l'avant-dernière mitzvah de toute la Torah, c'est que le roi, il doit écrire un deuxième Sefer Torah. Tous les juifs du monde, ils doivent écrire un Sefer Torah. Le roi, il doit en écrire un pour lui comme un juif normal, mais il doit en écrire un deuxième en tant que roi. Vekara bo kol yemei chayav. C'est-à-dire qu'il doit voir son règne dans ce Sefer Torah. Il doit apprendre à régner al pi ha-sefer. C'est pas du tout ce que nous, les juifs, on fait. Mais Le roi, il a double casquette. Il a un juif lambda, mais il est aussi roi. Quand il a un juif lambda, il étudie la Torah comme n'importe quel juif. S'il veut savoir comment on fait un thé Shabbat, le roi, il ira demander à la Torah chez Baalpé et à la Halakha comment on fait un thé Shabbat. Mais quand il doit prendre des décisions étatiques, il doit lire dans la Torah mamash. Ok ? Comme ce qu'on peut voir avec Yoshiyahu Melech Yehuda, qui, lorsqu'il a voulu punir les gens qui avaient tué son père, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tué les gens qui avaient tué son père. Parce que là, tout va bien. Sauf que après, on nous dit quoi ? Mais les enfants de ces gens-là qui avaient tué son père, il ne les a pas tués. Pourquoi il ne les a pas tués ? Kakatuv batora besefer Moshe, c'est-à-dire sefer Dvarim, lo yumtu avot al banim, ve banim lo yumtu al avot. Ish bechetto yumat. Maintenant, ce n'est pas du tout ce verset-là qui dit les pères, les enfants ne mourront pas pour les fautes des pères et les pères pour les fautes des enfants. Chacun sa faute. Au niveau de la halakha, ce n'est pas ça qui veut dire le verset. Au niveau de la halakha, ça veut dire que la edout, tu ne peux pas la faire quand tu es karov. C'est-à-dire que les enfants ne sont pas soulim la edout de leur père et les parents de leurs enfants. Mais lui, le roi, il lit comme un karaït, le texte. Donc le roi, il est préposé à la Torah écrite. Les kohanim, les rabbanim, parce que les kohanim, c'était les rabbanim de l'époque, ils sont préposés à la Torah orale. Ok ? Ah, pourquoi ? Parce que c'est ce que Moshe leur donne à faire comme boulot. Pourquoi les Mélachim, ils sont préposés à la Torah écrite ? Parce que c'est aussi le boulot qu'on leur donne. C'est-à-dire, quand tu regardes dans la paracha de Vayeler, okay, l'avant-avant-dernière paracha de la Torah, lorsque Moshe laisse la place à la nouvelle génération, eh bien, d'un côté, il va dire à Yoshua, Tikra, et ta Torah azot beozne bnei ha'am, c'est mitzvat akel. Et donc, le roi, on lui donne le livre de la Torah dans les mains, et il dit aux Kohanim, c'est à eux d'enseigner et trouquer à Torah. Bien sûr qu'il y a une logique. Le fait que la Torah est écrite, c'est le livre d'histoire du peuple juif. Or, le roi est le représentant de l'histoire du peuple juif à son époque. Ok ? Alors que les Kohanim sont là pour nous apprendre comment on se lie à Dieu. Comment on se lie à Dieu ? Par la halakha. D'accord ? Donc, si vous voulez, on a deux torotes. Torah Shebirtav, Torah Shebealpé. Les Melachim, c'est Torah Shebirtav. Les Kohanim, c'est Torah Shebealpé. Les Hashmonaïm sont des Kohanim. Mais est-ce qu'ils auraient un lien quelconque avec la royauté ? D'où viennent les Kohanim ? Tous les Kohanim ?
De Lévi.
Alors, c'est vrai, tu as raison, mais là, tu es remonté un peu loin. Parce que Lévi, non, c'est-à-dire que tous les fils de Lévi ne sont pas Kohanim.
Non, mais Moshe.
Ah ben non, Moshe, il n'est pas Kohen.
Non, oui, d'ailleurs, si tu veux pas Kohen. Mais...
Kohen. Aaron. Tous les Kohanim viennent de Aaron. Mais est-ce que Aaron, il a fait un bébé tout seul ? Donc, les Kohanim viennent de Aaron et de sa femme, Toda. C'est qui sa femme ? Non, excusez-moi, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que l'enregistrement va arriver à Sciences Po, et donc on ne peut pas dire avec sa femme, et avec son partenaire de vie.
Son follower.
Comment on dit ? Son follower.
Le leader.
Ouais, le leader et le follower. On ne peut pas dire leader pour lui et. Chas v'shalom. Donc, avec son partenaire de vie de sexe féminin. Je n'ai pas le droit de dire un truc comme ça. Aujourd'hui, on sait.
Franchement, tu rentres dans des domaines.
Hein, c'est ça. Hein. Mais c'est ça, il hein. Faudrait pas le genrer non plus.
La référence, peut-être pas tout le monde. Ah, mais Vigny, il y a.
Alors, je vais te dire. Moi, j'ai appris du Rav Cherki que Benadam, Shelomet Torah, Utsach Ladat, Beze Olam Uchai. Une malasse. Bon, sinon, à part ça, il y a une histoire à l'école de Sciences Po, je crois, Paris. Qu'il y a une dame. Voilà, le professeur de danse. C'est ça.
Bah c'est ça.
C'est quoi ça,
ouais, c'est ça.
Elle ne voulait pas que les hommes dansent ensemble.
Non, elle donne des cours de danse depuis des années. Et donc, dans des danses, c'est des couples, c'est des danses de couple. Donc, elle a dit, voilà, l'homme, il fait ce rôle-là, la femme fait ce rôle-là. Et parce qu'elle a dit, il y a l'homme et la femme, ça a fait un tollé, elle est virée de. Ou elle est partie de Sciences Po.
Deux femmes qui voulaient danser ensemble.
Ouais.
Deux femmes qui voulaient danser ensemble.
Ouais, je crois pas que ce soit ça le problème.
L'histoire, c'est ça. Elle s'est interviewée, elle a dit ça. Il y avait... Ça fait des dizaines d'années qu'elle enseigne le même cours. Et toujours, il y a écrit homme, femme, quand elle prépare le cours. Et là, okay. Elle reçoit la fiche pour préparer le cours, elle voit que c'est écrit leader, follower. Le leader, soi-disant le rôle de l'homme, et le follower, le rôle de la femme. Et enfin, mais qu'est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris, il y a des filles qui se sont
qui ont cru que leader, ça voulait dire les personnes qui avaient déjà fait ce cours-là les années précédentes. Ils sont leaders. Donc, elles n'ont pas trop compris. Donc, la prof, elle a dit, bon, alors vous savez quoi, les hommes d'un côté, les filles de l'autre.
Et ça a fait le tollé.
Il y a un mec de ESV, l'Europe Écologie Les Verts, il a rapporté ça.
Bon, Bekitsour, vous avez compris qu'il y a un problème. Quoi qu'il, donc Aaron, il n'a pas fait ça tout seul, il était avec sa femme. Et c'est qui sa femme ?
Elisheva.
Yehuda. Bat Aminadab Achot Narshon, telle qu'elle est présentée dans la Torah. Donc Elisheva, elle est la fille de la Malchut. Elle est la sœur du roi d'Israël. La fille du chef de la tribu de Yehuda. Donc ça veut dire que tous les Kohanim sont reliés à la Malchut, Mitzad Ima. Ouais, vous me suivez ? Shama Baya. Nous dit le livre de Michelet, Shema Beni Moussar Avicha, Val Titosh, Torah Timecha. Rashi, Bamakom, Moussar Avicha, Zetora Shebirtav, Torah Timecha, Zetora Shebealpe. Comme les Kohanim sont censés être les responsables de la Torah Shebealpe, ils sont les responsables de Torah Imecha. Donc, de par leur mère, ils sont reliés à la Malchut. De par leur mère, ils ont pris les armes pour sauver quoi ? Ben, Torah Shebealpé. Quand est-ce que c'est parti en cacahuète ? Lorsque les Hashmonaïm n'ont pas rendu la Malchut et en même temps ont abandonné Torah Shebealpé. Puisque les Hashmonaïm, c'est pas tant qu'ils n'aient pas rendu la Malchut le problème. C'est qu'une fois qu'ils ne l'ont pas rendu, ils sont aussi devenus, deux générations après Hanouka, Sadducéens, Sdoukim, qui ont rejeté Torah Shebealpé. En d'autres termes, ben, ils ont manqué à leurs deux tafkidim. Un, d'être Kohanim, d'enseigner la Torah orale, ils ont rejeté la Torah orale. Et deuxièmement, le fait qu'ils étaient reliés à la Malchut de par Ima, bah là aussi, c'est parti en cacahuète.
Ils
ne
faisaient plus du tout la Avodah de Bet HaMikdash.
Ils faisaient la Avodah de Bet HaMikdash, d'aïe. Tel que c'est marqué, si tu veux, dans la Torah, en mode un petit peu karaïte. Et il y avait certainement des traditions qu'ils ont continué à faire en mode halakha. Mais, concrètement, ils ne donnaient plus l'importance au rabbanim. Alexander Yanaï, qui est le roi Hashmonaïte, le premier à devenir sadducéen, les repas de famille devaient être chaud patate. Parce qu'il est marié avec Alexandra Shlom Tzion, et Alexandra Shlom Tzion, c'est la femme de Shimon, c'est la sœur de Shimon ben Shattar qui est née à Sanhedrin. Donc c'est-à-dire que le roi qui a officiellement rejeté la Torah orale est le beau-frère du chef du Sanhedrin. Donc ambiance. C'est-à-dire dans les repas de famille, ça devait être chaud. Donc les Kohanim, le problème c'est pas tant qu'ils aient pris le pouvoir, c'est qu'ils aient manqué à leur réalité de Kohanim et qu'ils aient introduit l'idée que la Torah orale, c'est pas obligatoire. Ça va être la base de ce qui va devenir le karaïsme, ça va être la base de ce qui va devenir aujourd'hui toutes les tendances à venir remettre en cause la légitimité de la transmission orale du judaïsme. Et donc contre ça, les Chachamim, ils ont un grand problème. Et donc à partir du moment où les Hashmonaïm partent en cacahuète, ils ne sont plus, ils sont boycottés. Et on ne va pas parler d'eux du tout dans tout le Talmud. Alors qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est bien beau d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire, mais si après, tu détruis tout ce que tu as mis en place, ben c'est ma chenikra qui est toé à la richonote. Mais c'est toé à la richonote, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait fait toute la Torah toute sa vie, à la fin, il rejette tout en bloc. Ben, tu peux donc plus donner de crédit et de valeur à ce qu'il a enseigné quand il était plus jeune. Ok ? Ça marche ? Donc, ça, c'est le premier problème. Quel problème qu'on a avec les Kohanim ? C'est qu'ils ont manqué à leur réalité de Kohanim. Ensuite, on a dit, on a un deuxième problème, une deuxième question très importante. C'était quoi notre deuxième question ?
Pourquoi ils n'ont pas abandonné...
Quoi ?
Ils n'ont pas relayé la
royauté. Non, ça fait partie de la première. Ça, on a dit, ils n'ont pas voulu parce qu'ils n'ont pas voulu, tout simplement. Après, il y a eu un problème d'ego. Exactement. Pourquoi est-ce qu'on a gardé Hanouka alors que toutes les autres fêtes ont été annulées? En vérité, posons-nous la question simplement. Toutes les fêtes qui ont été mises en place pour des victoires du Second Temple, à partir du moment où le Temple a été détruit et que les Romains, ils ont tout terminé, tu vas continuer à faire des fêtes qui rappellent des victoires alors que t'es pas là, quoi. Donc c'est tout à fait une logique que ces fêtes ont été annulées.
Par rapport juste à ce que vous avez dit avant, c'est pour ça qu'ils ont envoyé après Yehuda Maccabi.
Qui ?
Les Rachamim.
Non, parce que Yehuda Maccabi, il n'est pas Tzadouki. Yehuda Maccabi, c'est un tzadik. Yehuda Maccabi, il dirait Shamaim, et Torah Shebirtav, Torah Shebalpe, Mashtarotze. Non, le problème entre Yehuda et les Rachamim, c'est un problème personnel. Qui est que Yehuda, il a un grand problème avec les Chachamim parce qu'ils n'ont pas bougé. Rappelle-toi de la première page de la Gemara dans Maseret Kiddushin. Rappelle que Rabbeinu Saadia Gaon, il dit que ça ne vient pas des Amoraïm. C'est une page qui a été rajoutée par les Savoraïm plus tard. Mais c'est quoi cette première page? Elle est terrible, cette première page. Elle nous raconte le problème qu'ont fait les femmes de Jérusalem à l'époque de Hanouka. Un grand problème. Arinou les Chachamim, on a mis en place la Takana que tous les mariages devaient avoir lieu le mercredi. Et il y a des Tznouot qui ont fait des problèmes parce que, bon, c'est vrai, il y avait le droit de cuissage et donc le gouverneur grec, il savait quand il y avait un mariage, donc il venait, il prenait la Kala. Ça va ! Ça va ! Bon, tu vois qu'il y a un problème latent, quoi, dans cette histoire-là. C'est un vrai problème. Alors après, j'accuse pas les Chachamim, j'étais pas à l'époque, je sais pas pourquoi ils ont rien dit. Ce qui est marqué dans la Gemara, c'est tout simplement révoltant. C'est-à-dire, Ikarka Olam, puisqu'elle est Karka Olam, alors elle n'est pas Asura le Baala. Alors non, il y a un problème pour les Kohanim. Achon, oh Tov, nous.
C'est-à-dire. Il y en a beaucoup qui te disent encore, oh, bon, il y a Israël, le truc, bon, très bien.
Non, mais là tu comprends que...
Minimiser la situation, si tu veux.
Ouais, mais attends. Il y a Israël, et alors quoi? Quel est le problème? Là, non, le problème, il est...
De minimiser la situation dans laquelle on est, de dire, bon, bah, c'est pas très grave, cette situation.
Non, mais aujourd'hui, la situation, elle est très bien. On n'a pas de problème, aujourd'hui. Il y a des problèmes, mais je veux dire... On n'est pas en train de violer nos femmes à chaque fois qu'elles se marient.
Non, mais c'est ça que je dis. Je dis juste, c'est je vois par rapport à une minimisation.
Ouais.
Temps, il y a eu. Tu dis à l'époque.
Non. Mais là-bas, c'était quand même sacrément violent. Donc on voit qu'ils n'ont pas bougé, les Chachamim, à l'époque. Est-ce qu'ils pouvaient bouger? Est-ce qu'ils pouvaient pas? Je ne sais pas. Mais tu vois qu'il y a un contentieux entre les deux. C'est-à-dire, Chutz Mizé, que Yehuda Maccabi, il n'a pas du tout demandé leur avis aux Chachamim. C'est-à-dire. Oh. Donc peut-être qu'il y a aussi un problème personnel à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, pourquoi est-ce que Hanouka est resté? C'est normal que les autres fêtes disparaissent. Et donc la question, c'est pourquoi Hanouka, ça reste? Alors nous dit la Megillat Ta'anit, Biglal Sheit Parsem Anes, de Pirsum Enissa, ce que vous connaissez. Pirsum Enissa. Mais c'est quoi le Nes qui est mit Parsem? Je veux bien que ce soit Pirsum Enissa, mais c'est quoi le Nes? C'est quoi le Nes? On t'a dit, on garde Hanouka, parce que Hanouka, c'est différent des autres fêtes qu'on a rajoutées dans le deuxième temple, c'est que it parsem a Nes. Et la question, c'est quel Nes? Si on parle de la petite fiole d'huile, lo it parsem shum davar. It parsem. Vite fait. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche après? C'est-à-dire que le miracle de la petite fiole d'huile a duré 8 jours. Donc pourquoi est-ce que quand on a annulé Megillat Ta'anit 200 ans plus tard, qu'est-ce que je dis, 300 ans plus tard, tu disais on garde Hanouka parce qu'il partait Manès.
Le plus logique à dire de perso, ce serait les victoires.
Mais là, ça marche pas. Parce que justement, toutes les autres fêtes sont des victoires et elles ont été annulées. Quoi? Sia. Alors c'est ce qu'il dit, les victoires militaires. Sauf que, j'entends bien, mais toutes les autres fêtes aussi, elles viennent, enfin pas toutes, mais une grande partie, elles viennent aussi parler de victoires militaires. Et le problème, c'est qu'elles ont été annulées parce que franchement, ok, on a gagné la guerre, mais maintenant on a perdu au final. Quand les Romains viennent et qu'ils détruisent tout et qu'on part en exil, ben, on a perdu. Donc tous les acquis de ces victoires-là, finalement, ça ne sert plus à rien. Et là, il partait Manès. Des Mawanès. Ben, on est Bagalout, Nahon. Et on est toujours là. Zanès. On est Bagalout. Après les Romains, une fois que les Romains ils nous détruisent le Beth Amikdash, ils nous envoient en exil, on est en Galout. Et on est toujours là.
C'est que maintenant que tu peux dire ça.
Badaï. C'est que maintenant qu'on peut dire ça. Maintenant, c'est-à-dire.
300 ans après, 400 ans après, ouais. On ne peut pas dire encore que c'est sur ça.
Ah bon? Et pourquoi pas?
Je ne sais pas.
Bah, ils sont toujours là. Au moment où ils détruisent, ou au moment où ils disent Boutla Megillat Taani, c'est déjà après. C'est 400 ans après, parce que c'est 200 ans après, après les Romains.
Ok, alors c'est 200 ans.
C'est 400 ans après Hanouka. Ok, 200 ans après les Romains. C'est à 200 ans, on aurait dû disparaître. On est toujours là.
C'est l'éternité du Ham Israël.
Exactement. C'est quoi les autres?
Justement, on ne les connaît pas, mais du coup.
Ah si, bah on les connaît, ils sont marqués dans Megillat Taanit. Parce que les autres ne viennent pas mettre en avant le fait qu'on s'est battu pour notre identité. Le fait, les autres, c'est des trucs ponctuels. Hanouka, c'est le moment où tu as décidé de partir en guerre parce qu'on voulait te prendre ton identité. À la différence de Purim. Purim, on a voulu te massacrer. Mais là, on a voulu te prendre ton identité. Ah, t'es toujours là? Ah, ben ça, c'est Hannes. On nous dit, au Rachaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, nous dit, c'est quand même ouf. La Gemara nous dit que la Géoula, elle vient dans une époque, soit chez Kulo Zakai, on est tous des tzadikim, soit Kulo Chayav, tous des Rechaim. Et le Gan de Vilna, il dit, il est plus sur le deuxième avis. Rabbi Chaim Ben Attar dit, alors c'est quoi, que, pourquoi Dieu il nous donne la Géoula, si on est tous pas méritants? Il dit, parce qu'on a beau ne pas être méritants, hein, il y a toujours quelqu'un à libérer après 1700 ans d'exil. C'est un mérite à Achigadel. Les juifs sont toujours juifs, alors que ça aurait été tellement plus simple pour nous de s'assimiler. Tu t'assimiles, au bout d'une génération, ça y est, plus personne ne sait que tu es juif. Il n'y a plus de problème, tu peux travailler, tu n'es pas persécuté, machin. Donc c'est Nespel et Ploïm que Am Israël va continuer Bagalout. Et donc en fait, ça veut dire que si on continue Hanouka, il ne faut pas se tromper de qu'est-ce que c'est Hanouka. Bien sûr que c'est la victoire. Parce que s'il n'y avait pas eu la victoire, on n'aurait pas pu mettre en avant notre identité. Mais c'est quoi qui nous a permis donc? Eh bien une fois qu'on a gagné, on a pu mettre en place l'identité d'Israël. Et je vais vous dire mieux que ça.
Et pourquoi à ce moment-là, oui, tout le monde ne parle que de cette fiole d'huile?
Ah, parce que tout le monde ne se trompe. Il n'étudie pas la Torah. C'est un vrai problème.
Comme si c'était ça le miracle exceptionnel.
C'est un vrai problème. C'est évidemment pas ça le miracle exceptionnel. Alors, on l'a déjà dit souvent, ce miracle il n'est mentionné que dans 2-3 endroits dans toute la littérature rabbinique. C'est vraiment pas important pour nous le fait qu'il y a eu un petit miracle avec une petite fiole d'huile. Par contre, le fait que Am Israël il a survécu et que la menorah est le témoin de la présence divine qui règne dans le peuple juif, ça oui. Ok ? Et donc, si vous voulez, pourquoi est-ce qu'on continue à faire Hanouka, Bagalout ? Justement parce que ça vient témoigner de l'identité d'Israël. Où est-ce que tu mets la Hanoukia ? À la fenêtre.
À la fenêtre.
Ah. Merci. En vrai, d'après la halakha, tu ne la mets pas à la fenêtre. Tu la mets à la porte. Si tu peux pas, parce que tu as peur des goïms. Ou alors, parce que j'habite dans un appartement au 21e étage et qu'il n'y a personne d'autre sur mon palier. Et... alors personne ne va le voir si je le mets devant la porte.
À la fenêtre aussi. Au 21e étage.
Je te dis, si c'est parce que j'ai peur des goïms, ben galoute, je ne vais pas la mettre dehors parce que j'ai peur des goïms. Donc je le mets chez moi. Si je le mets à ma fenêtre, peut-être que les goïms vont voir quand même. Donc si j'ai peur, je le mets même dans mon salon. Ok ?
On peut pas l'identité si on la cache.
Mais d'accord, mais si t'as peur, t'as pas le choix. On le fête de façon cachée, on te dit, Bezrat Hashem, un jour on pourra le fêter de manière moins cachée. Mais là, c'est vraiment un cas de Pikouach Nefesh. Donc, c'est pas du tout l'idéal. L'idéal de la halakha qui a été écrite Bagalout, c'est de te dire, non, tu le mets dehors, devant la porte. Et après, tous ceux qui me disent, non, mais on doit le mettre à la fenêtre, c'est pour des problèmes techniques. D'accord ? Normalement, il faut le mettre devant la porte. Pour éclairer quoi ?
Le monde.
Le monde. C'est romantique. Parce que c'est vrai qu'une petite bougie, ça peut éclairer le monde entier.
De Hanouka.
Une bougie de Hanouka. Non, Bémet, ça éclaire le monde. Après, une petite lampe, la lampe de ton téléphone, elle fait plus de lumière que celle de la bougie de Hanouka.
Non, mais allégoriquement.
Allégoriquement. Ouais, mais il y en a marre de réduire le judaïsme à de l'allégorie.
Les Chabad, ils les font dehors.
Les Chabad, ils les font dehors. Ouais. Et ça sert à quoi?
Parce que
À ce que les gens soient antisémites.
Parce que les services de... Non, parce que la service de la mairie...
Rien fait, donc tu l'as amené devant la mairie, et tu as été copain avec l'adjoint au maire, et tu vas même le faire à la Maison Blanche et tout ça, et on va te faire un très beau discours sur la lumière qui réussit à battre les ténèbres. Nous, Bémet. C'est, excuse-moi, mais ça, quand on... Non mais, à toi. Mais quand on allume les bougies, les lumières de Hanouka dans ces endroits-là devant les goyim, enfin moi, j'y vois absolument aucun intérêt, sinon le fait de, parce que en général, le discours, il va pas être seulement du rabbin Chabad, ça va être aussi du maire ou du président américain, ou des trucs machin. Et on va te faire toujours des discours du style, c'est la victoire de la lumière contre les ténèbres, et particulièrement dans notre génération, et aujourd'hui, we have the terrorists, et il faut allumer la lumière, et tout ça, et c'est très important, et machin. Blablabla, blablabla, blablabla. Bla. En fait, tu m'as fait une version juifisée de Noël. C'est exactement la même chose. Tu m'as fait une très belle fête, qui n'a pas de sens à part le fait qu'il faut allumer la lumière, c'est la magie de Noël et c'est génial et pom pom pa la boum. Nous.
Déjà, pourquoi on prend le miracle de la fiole d'huile pour montrer un truc qu'on a encore là
Mais on prend pas le miracle de la fiole d'huile.
Bah d'accord, mais c'est la remédia qu'on met devant la porte.
Il y a fait qui n'a rien à voir avec la fiole d'huile.
Et bah donc quel rapport avec le nez?
Mais le nez, c'est pas la fiole d'huile.
On va toujours le rapport entre les deux. Il y a aucun
mais c'est ce que je suis en train de te dire. La Hanoukia n'a absolument rien à voir avec la fiole d'huile.
Donc pourquoi on allume la Hanoukia?
Ah, pourquoi on allume la Hanoukia? Donc j'ai posé la question, où est-ce qu'on la met? On la met devant la porte. J'ai demandé qu'est-ce qu'on éclaire. Vous m'avez dit le monde. Bon, et de manière plus terre à terre.
T'as les chamans.
Nos
bémettes. Le palier.
Le palier. T'éclaires ta porte en fait. Et nous dit la halakha, tu dois la mettre où la Hanoukia? En Asarat Fakhim, minimum Asarat Fakhim, pour qu'elle éclaire quoi? Elle est mis moulma. La mezouza. C'est pas chaud, c'est le seul truc qui est là à éclairer. Comme ça, quand l'homme y rentre, il a mitzad echad à Hanoukia, mitzad sheni à mezouza. C'est-à-dire que, en fait, tu mets ta Hanoukia pour éclairer le machin qui a marché. Tu mets un spot sur le Nes. C'est quoi le Nes? C'est la maison juive.
Donc c'est pour nous, en fait, c'est pas pour les autres.
Non, que tout le monde voit qu'ici, il y a une maison juive. Toi aussi.
Mais alors, d'où le système du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8?
Alors, d'où le système du 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8? Je l'ai déjà dit souvent, ça c'est pas Manitou, ça c'est Flavius Joseph, qui nous explique tout simplement, dans le livre Kadmoniot à Yehoudim, qu'il y avait un minag à l'époque de la guerre, lorsqu'on nous avait interdit de faire la brit mila. Que lorsque l'enfant naissait, on mettait une bougie devant la maison. Et le deuxième jour, le deuxième. Ouais, troisième.
Il a les chamas, c'est pour ça qu'ils se...
Il a les chamas, ils vont se disputer. Est-ce que c'est de 1 à 8 ou de 8 à 1? Et toi, tu me dis, ça ne marche pas avec l'histoire de Flavius Joseph. D'accord? C'est couché à Tova. Moi, j'ai dit, je suis couché à Odioter Tova. Arrêtez minag, d'accord? Gab le fi agmar azé minag. Donc, minag, ça veut dire quoi en français?
Tradition.
Tradition. Vous avez raison, mais je préfère un autre mot. Le mot, c'est littéralement, minag, ça veut dire ce qu'on fait. Ça vient du mot linog, ani noeg. Donc, comment il peut y avoir une marloquette sur ce qu'on fait? Donc, comment c'est possible que Bet Hillel et Bet Shammai, parce que c'est pas Hillel et Shammai, c'est Bet Hillel et Bet Shammai, qui sont en marloquette 200 ans après Hanouka?
Ça a commencé plus tard.
Donc, ça veut dire que pendant 200 ans, ils n'ont pas allumé.
Yeah, mais je vois sur quoi est la marloquette, du coup.
Ah, donc la marloquette, elle est après. Une fois qu'on a arrêté de faire le minag, puisque le minag, il était pendant la guerre. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? La guerre est finie. Et il n'y a pas Hillel et Shammai. On fait quoi? On n'allume pas les Hanoukiot. Pourquoi on n'allume pas les Hanoukiot? Parce que Hanouka, c'est la fête des Hashmonaïm. Et qu'est-ce qu'on fait à chaque année à Hanouka? Veidliku Nerot, Bechatzerot Kotchecha. On sort la menorah dehors. C'est la fête, les festivités, elles sont au Beth Amikdash. Mais arrive Hérode, qui déteste les Hashmonaïm, qui fait annuler tout ce qui est en rapport avec les Hashmonaïm. Ah, c'est comme ça. Donc maintenant, on va refaire le minag. Alors maintenant, est-ce qu'on le refait exactement comme il faisait à l'époque, Bet Hillel, à 8? Ou est-ce que Bet Shammai vient et te dit, Ken Aval Shinya, Tavin, le chidouche de Hanouka, Zekashur le Chagasukot. Et donc, on va faire Keneget Pare à Chag, en descendant. Et en quoi Zekashur le Chagasukot? Betar Samtalev, que toutes les réalités de la fête de Hanouka ont été copiées-collées à Sukot à l'époque de Hillel et Shammai. On a fait de Simchat Bet HaShoeva, qui était une fête autour de l'eau, une fête autour du feu, où tout le monde allume des bougies partout. Parce que Hérode, il ne permettait pas de faire à Hanouka ce qu'on a pu faire à Soukhot. C'est-à-dire, bon, après, ça, c'est des problèmes historiques. Quoi qu'il en soit, ça veut dire que pourquoi on garde Hanouka? Parce que Hanouka, bagalout, c'est le moment où tu mets l'accent sur quoi? Sur la maison juive. Ah, c'est Nahon, bagalout.
Ok, donc ça veut dire que là, maintenant qu'on est en
Géoula, il y a fait. Il y a fait. Maintenant qu'on est en Géoula, eh bien, l'accent, il n'est pas seulement sur le fait qu'Am Israël a survécu. Maintenant que tu es en Géoula, tu peux redonner à Hanouka sa véritable valeur qui était celle de la victoire. Que maintenant, Am Israël, il n'a pas seulement survécu, mais il a son mot à dire dans le monde entier. Donc, si tu veux, Hanouka Bagalout, c'est le miracle qu'on ait survécu et qu'on survit de génération en génération. Hanouka aujourd'hui, c'est que fort de cette survie-là, maintenant, on est prêt à donner notre mot à dire au monde entier. D'accord ?
Moi, juste une petite question. Tu as dit que c'est censé éclairer la mezouza. Du coup, strictement, même du point de vue technique, mettre le Hanouka sur la fête ne sert strictement à rien.
Bah, c'est ce que je t'ai dit. Ouais. Si t'as pas le choix, t'as pas le choix. Parce que t'as éclairé la mezouza, mais si personne ne le voit. Et que si tu le mets à la fenêtre.
C'est pour toi d'éclairer la mezouza.
Oui, mais tu veux que ça soit un pirsoum. Tu veux que tout le monde voit qu'il y a une maison juive. Donc l'idéal, c'est que t'as une maison. Et donc devant ta maison, la porte, elle est sur la rue. Et donc les gens, ils vont passer dans la rue, ils vont voir, ah, la maison juive, regarde, la mezouza. Bon, mais moi, ma maison, ma porte, elle donne sur rien. Mais ma fenêtre, elle donne sur la rue. Tov, Alnoaz, mais à la fenêtre. Ça, mais c'est un problème technique. D'accord ? Et si tu habites dans un immeuble de 47 étages, et qu'il n'y a personne sur ton palier, et que de toute façon, à ta fenêtre, personne ne verra parce que personne se balade comme ça, alors faut que tu allumes à l'entrée de ton bâtiment. En bas. C'est ça ? Et que de la tête, Mikol, ça fait. Tu as quand même allumé une autre en haut, si tu veux, la rouche, Midat. C'est ça ? Donc, ça nous amène à notre troisième question. Et notre troisième question, c'était quoi ? Nounou ?
Pourquoi on l'a fait aujourd'hui ?
Et donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme message ? Puisqu'on a dit qu'il faut amener un message. Maintenant qu'on peut ramener ce message, alors quel est ce message ? Quel est le message ? On vit dans une culture grecisée depuis 2000 ans. Qu'est-ce qu'on a à dire, nous, à la Grèce ? Qu'est-ce qu'on a à dire, nous, à la société occidentale ? D'accord ? Parce qu'on vit dans ce monde-là, le monde grec a gagné, il a dominé le monde et il domine encore le monde. Nous, on est sortis de notre exil, on a notre mot à dire, on a survécu, on est là. Qu'est-ce qu'on a maintenant à dire à la Grèce ? Eh bien, ce qu'on a à dire à la Grèce, c'est que on va revenir aux origines de notre opposition à eux. Et l'origine de notre opposition à la Grèce, disait Manitou, c'est qu'ils ne voulaient pas enlever la Torah. Mais il voulait annihiler Am Israël. Car Am Israël ne peut pas être celui qui fait le trait d'union avec le transcendant, avec Dieu. Dans la mesure où normalement, tout passe par la Grèce. Et donc, quand tu regardes dans Al-Anissim, il y a marqué « Bimé matityahu ben Yochanan kohen gadol chashmonai uvanav kesheamda malchut yavan arishaa alamecha Israël lashkicham mi toratecha » C'est-à-dire de nous faire oublier de ta Torah. Ce n'est pas l'échakecham toratecha, ce n'est pas qu'il voulait faire oublier ta Torah, mais il voulait nous faire oublier de la Torah. La Torah, ils l'ont prise, ils l'ont traduite en grec, mais ils ne voulaient pas du peuple juif. Aujourd'hui, nous avons comme mission de venir dire au monde que c'est nous qui servons de trait d'union entre Dieu et le reste du monde. Il ne suffit pas de le dire, il faut le faire également. Mais c'est ça notre message à donner aujourd'hui. Hanouka Bezman Ageoula, c'est le moment où le monde attend de nous qu'on allume véritablement la lumière. Véritablement, et pas par des paroles très dans les airs. Mais par une réalité concrète où Am Israël prend son rôle à cœur et dévoile la Kadosh Baruch Hu dans le monde. C'est ça que tout le monde attend. Et c'est ça notre rôle de Hanouka aujourd'hui, pour montrer à la société occidentale ce qui lui manque. C'est quoi ce qui lui manque ? Comme nous dit Rabbi Yehuda Halevi, Al tefateach chochma yevanit ki en ba perot ki im prachim. Il y a des fleurs qui donnent des fruits, il y a des fleurs qui ne donnent pas de fruits. Les fleurs qui ne donnent pas de fruits, c'est l'esthétique. C'est beau, mais c'est vide. Celui qui donne un fruit, alors c'est pour amener quelque chose de beaucoup plus profond. Et notre problème avec la Grèce, c'est justement ça. Qu'il y a une très très belle écorce extérieure, mais qu'elle ne permet pas d'avoir une connexion avec l'intériorité. Et donc je terminerai en disant qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est dessiner sur les statues grecques la pupille des yeux. Et oui, vous aurez remarqué que dans toutes les statues grecques, qui savaient faire les détails de chaque détail du corps humain, avec les veines et les poils et machin, vous remarquerez que dans les yeux, ils n'ont jamais de pupille. C'est bizarre. Nous, on a une pupille, les gens. Et cette pupille, comment elle s'appelle en hébreu ? Elle s'appelle la Ishon. Nous dit Rashi, pourquoi c'est Ishon ? Pourquoi ça s'appelle comme ça ? Parce que quand tu regardes dedans, tu vois un Ishkatan. C'est Ishon. Nous, en physique, tu vois simplement ton reflet. Ou alors, tu vois simplement ce qui permet de faire une connexion entre l'extérieur et le petit Ishkatan, Taneshama, qui est à l'intérieur. Et donc, en fait, c'est ça qu'on a besoin d'amener au monde grec, au monde occidental. Cette connexion entre l'extériorité et l'intériorité. Et c'est ça le message qu'aujourd'hui, on peut donner. On ne pouvait pas le donner Bagalout, parce que Bagalout, on s'occupait de dire « Non, mais on est toujours là !» Mais maintenant, on peut véritablement le donner. Et c'est ça le message de Hanouka d'après la Torah de Manitou. « Ben, mimahem, bazeman, azeh, chag sameach !»